L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 novembre, émission donc toujours en direct de Château-Gontier et de Laval. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, ciel dégagé ce matin, tout va bien.
Tout va bien, effectivement il fait assez beau, plutôt froid mais assez beau, merci pour cet habituel, maintenant ça va devenir habituel, hein. petit point météo. Aujourd'hui on parle aussi de Noël de folie, une opération donc menée par le pays de Château-Gontier, on en parle d'ici quelques minutes, mais aussi la culture qui donc est à la peine, on le sait, avec ce confinement, malgré tout L'activité se poursuit avec la compagnie Burnout qui était en résidence au Carré à Château-Gontier la semaine dernière. Et puis on continue ton feuilleton, hein, Claire, avec la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval, où on va découvrir, si je ne me trompe pas du coup, le côté restauration. Exactement. Pour voir comment eux aussi s'habituent à cette période si particulière du confinement. Mais tout de suite, avant tout ça, on va faire un point sur l'actualité. Claire, nouvelle manifestation cet après-midi pour les oubliés du Ségur.
Force ouvrière, la CGT et Sud appellent à un rassemblement cet après-midi à 14h devant la préfecture de Laval. Ils demandent l'extension de la revalorisation de 183 € mensuels pour tous les agents du service médico-social. Autre manifestation, celle des restaurateurs et hôteliers du département qui répondent à l'appel de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Rassemblement prévu à 15h30 à Laval, esplanade du Château-Neuf. Une marche est prévue jusqu'à la préfecture où une délégation sera reçue. Après 100 jours de fermeture, les restaurateurs et hôteliers veulent se faire entendre.
La réouverture des commerces dès ce samedi, une belle avancée pour l'Association des maires de France en Mayenne.
L'AMF 53 rappelle qu'il est primordial d'aider nos commerces de proximité, force vive de nos centres-villes. L'association apporte aussi son soutien aux professionnels du tourisme qui ne peuvent toujours pas travailler et insiste sur le respect des gestes barrières et de l'ensemble des protocoles sanitaires.
Mais l'assouplissement du confinement ne suffit pas pour l'évêque de Laval.
La décision du gouvernement de permettre la célébration des messes à un maximum de 30 personnes dès ce week-end a déçu la conférence des évêques de France. Thierry Scherrer, évêque du diocèse de Laval, a partagé au préfet de la Mayenne son étonnement. Pour lui, c'est ne pas respecter les accords antérieurs entre le gouvernement et les représentants de culte. La communauté catholique espère, avec la conférence de presse du Premier ministre aujourd'hui, un réel assouplissement.
Attention, arnaque téléphonique en cours à Laval.
Les escrocs se font passer pour des policiers, racontent qu'ils ont interpellé un individu en possession de carte bancaire et, par force de persuasion, vous demandent votre numéro de cryptogramme visuel, le fameux numéro au dos de votre carte. Malheureusement, ce stratagème a déjà fait des victimes, dont une personne âgée qui a perdu 7 000 €. Attention donc, on le rappelle, la police ne peut jamais vous demander par téléphone un numéro de carte bancaire et en cas de doute, vous contactez le 17.
Sur France Bleu Mayenne hier, Philippe Henry regrette la réouverture tardive des restaurants.
Le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et président du pays de Château-Gontier a réagi hier aux annonces du gouvernement. La réouverture des restaurants est estimée au 20 janvier. Philippe Henry aurait souhaité une estimation plus locale, comme par exemple avec l'ouverture du service du midi. Il observe beaucoup de travailleurs manger dans leur camion, par exemple, alors qu'il estime que les protocoles sanitaires étaient bien respectés dans les restaurants.
Merci Claire pour ce flash d'information et puis... Je retrouve mes feuilles. Vous savez, c'est la radio, on imprime aussi tout. Et donc, il faut juste que je retrouve mes feuilles, effectivement. Et donc, en fait, le flash qui n'est pas du tout fini. Donc, non, surtout qu'on va parler d'une jolie surprise qu'ont eu les licenciés du club d'escrime de Château-Gontier.
Et oui, après un message envoyé par un jeune du club, c'est l'ancienne championne d'escrime et ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, qui répond par message vidéo. Elle répond directement au jeune Nolan, en incitant, malgré le confinement, à enfiler sa tenue et ne pas arrêter de s'exercer. Ce message de soutien qui a de quoi rendre fier le jeune licencié et tout son club.
Et puis toujours en sport, sur la route du Vendée Globe, direction l'hémisphère sud.
Le Ségréen Fabrice Amedeo a franchi cette nuit l'Équateur et remonte légèrement le classement. Il est à la 25e place. Pour le VNB Mayenne, Maxime Sorel reste à la 14e place.
Merci Claire pour ce flash. Et donc, comme évoqué en début d'émission, le pays de Château-Gontier promet un Noël de folie. C'est le nom de la nouvelle opération menée par la communauté de communes auprès des commerçants du territoire. Une sorte de grande tombola gratuite avec de nombreux cadeaux et bons d'achat à gagner. Près de 200 commerçants, artisans et producteurs y participent. Le pays de Château-Gontier va débourser 240 000 euros pour cette nouvelle initiative. Même somme engagée aussi par le département. Philippe Henry, le président de la communauté de communes du pays de Château-Gontier, explique un peu le principe de l'opération.
On a deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est chaque commerçant sera doté d'une urne où à chaque achat, il pourra faire jouer son client. À l'issue de l'opération, on va organiser un tirage de chaque urne pour que le commerçant aujourd'hui puisse être en quelque sorte bénéficiaire de 1000 euros de chèque cadeau, de 50 places de cinéma et je crois qu'il y avait aussi 20 places pour le refuge de l'Arche. Et l'enjeu, c'est de faire un tirage de chaque urne pour que le commerçant remercie effectivement ses clients de proximité. Et après, l'ensemble des bulletins donc que l'on retrouvera dans les 200 urnes sera mis dans une grande urne. Et on fera donc le grand tirage qui concerne effectivement deux voitures électriques, une Zoé et une 208, 30 vélos à assistance électrique. On a quatre bons pour des voyages ou séjours à hauteur de 1000 euros. On a à nouveau 100 000 euros de chèques cadeaux qui vont être retirés lors du grand tirage. On veut effectivement stimuler la fréquentation. Quand on fait un jeu où on apporte quasiment 480 000 euros de cadeaux, on veut aujourd'hui booster en quelque sorte là, aujourd'hui l'activité commerciale de proximité. Et le deuxième élément, c'est de se dire que ces récompenses, ces cadeaux, ils vont être donnés dans la période pour que les gens puissent les consommer effectivement sur le premier trimestre de l'année 2021, c'est-à-dire là où souvent c'est un peu convalescent, on sort des fêtes, on a vu passer les soldes et après bah, le commerce est parfois un petit peu plus mou. Donc l'idée c'est aussi de relancer la dynamique commerciale, notamment sur le premier trimestre de l'année 2021. On a tous une responsabilité individuelle sur le sujet. S'il y a bien une année où il faut acheter en proximité, c'est bien cette année. C'est pas la collectivité à elle seule qui, avec ses petits bras, va pouvoir sauver l'ensemble du tissu commercial de proximité. Il faut que tout le monde se mobilise pour faire en sorte que le cadeau de l'année 2020, il soit fait chez des commerçants de proximité.
Cette opération Noël de folie commence donc ce mardi 1er décembre. Elle se poursuivra jusqu'au 10 janvier, avant le tirage au sort le lendemain. Et pour être encore plus dans l'ambiance de Noël, le lancement des illuminations a lieu demain à 18h sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et puis, on en parlait là aussi en début d'émission, une compagnie, la compagnie Burnout, c'est donc... étaient en résidence la semaine dernière sur la scène du Carré à Château-Gontier. Ils en ont profité pour enregistrer une captation vidéo de leur nouveau spectacle. On en parle d'ici quelques minutes après avoir écouté Apollo Brown avec Chuck Berry. But strange things are starting to occur. GCM16, Boom Magazine, Marine, All Protein, Lean Machine, Foul Obscene, Michael Myers Halloween, Rap Cuisine on the Big Screen. GCM16, Boom Magazine, Marines, All Protein, Lean Machine, Foul Obscene, Michael Myers Halloween, Rap Cuisine on the Big Screen. Yeah. Chuck Berry on the white bitch, Nike flight rich, baller budget dynamite shit, Porter brother dynasty monk, I'm kinda nice with my knife slits, I keep the mics lit and keep a tight grip, lightning strikes when I write shit, vultures flock, jock and bite this, and my cypher playing me close can get you shot by the toast up close by one of my disciples, I'm one with the night owl, I'm one with the rifle to snipe you, right out the motherfucking picture talking about your life, I'm the skinny nigga smoking Buddha that'll punch your lights out, one tune when you don't say, when it comes to giving out a fade. He don't play, and when it comes to fucking with the hoes, he don't pay. It's deep, you keep swearing that you hot and not even Chipotle. I'll be where the homicide haters and dopey. Quote me, hold that. Close niggas, not even remotely. Yeah, but show that. Brothers a boss, and my team roll thick. Bitch niggas get smothered and tossed. We get busy, nigga. GCM16, Fool Magazine, Marine, All Protein, Lean Machines, Foul Obscene, Michael Myers Halloween, Rap Cuisine on the Big Screen. GCM16, Fool Magazine.
magazine, Marines, all protein, lean machines, foul obscene, Michael Myers, Halloween, rap cuisine.
Star for law, they holler at Akbar. Sat outside the crib behind the wheel of unmarked cars, plotting my demise, relying on a liar's lies. When three strikes turn to six, that's what I despise. I'm in the four fives, finger fucking wise. Never hesitate to throw on a disguise. I'm excited when the pies rise. Yeah, I'm so far from the corner, and you are not far from any former. The dog starts barking as soon as it gets warmer. They let him off the leash, you in the belly, cause the beast smelled the work, so they ripped off the bumpers. The judge was like the math teacher, cause he was eager to do the numbers. The turnpike slumped a few cats I was familiar with. After a while, it got me discouraged, got on some music shit. Now, Sean Penn is in this motherfucker. Why? I get busy with this motherfucker.
M16, Fool Magazine, Marine, all protein, lean machines, foul obscene, Michael Myers, Halloween, rap cuisine, on the big screen. GCM16, Fool Magazine, Marines, all protein, lean machines, foul obscene, Michael Myers, Halloween, rap cuisine, on the big screen.
Vous êtes bien toujours sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Ils devaient venir faire leur première de leur spectacle de danse sur la scène du Carré à Château-Gontier début novembre. La compagnie Burnout n'a pas pu forcément proposer ce spectacle, mais est venue en résidence la semaine dernière du 17 au 20 novembre sur la scène donc du Carré à Château-Gontier pour faire une captation vidéo de leur spectacle intitulé Reverse. Et au final, Jeanne Gallois, la chorégraphe et danseuse, chorégraphe en tout cas de ce spectacle Reverse, est plutôt contente de parvenir malgré tout à maintenir leur activité malgré ce deuxième confinement.
Ce qui est quand même agréable, je dirais, dans ce deuxième confinement, c'est qu'on a une porte ouverte au théâtre, on a une possibilité de continuer à avoir une activité, même si elle est fortement réduite parce que toutes les représentations sont annulées. Mais voilà, on peut continuer à travailler, nous, comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire en studio ou en plateau, avec des équipes réduites aussi quand même au niveau de l'organisation. Mais donc voilà, oui, on est là en résidence à Château-Gontier, envers et contre tout, comme on le disait, parce que les représentations devaient avoir lieu début novembre. Et en plus, celle de début novembre était déjà un report du mois d'avril, qui évidemment ont été annulés. Donc on cumule un petit peu là les surprises, mais on s'y fait, hein, ça, comme tous les corps de métier, on s'adapte et on fait avec l'instant présent, et c'est très bien comme ça aussi.
Le coronavirus a des conséquences donc forcément sur les dates de la compagnie, mais aussi dans leur jeu, dans leur activité, vous l'entendez.
Chaque jour est un peu, on marche sur des œufs, parce que si une seule personne des danseurs a des symptômes, quels qu'ils soient, tout de suite on annule les répétitions et on fait faire tester tout le monde. Parce que ça sert à rien de prendre des risques aussi inutiles. Donc c'est surtout ça en fait qui change, c'est que du jour au lendemain on ne sait jamais si on pourra continuer ou pas notre temps de résidence qui était prévu initialement. Donc voilà, moi en tout cas je suis très attachée à ce que ce soit respecté, enfin à ce qu'on fasse attention à ça. Ensuite, quand on est vraiment dans la pratique de la danse là sur le plateau, concrètement on ne peut pas danser avec les masques. Parce que déjà, on s'essouffle extrêmement rapidement. C'est comme faire du sport avec un masque. Tout le monde a essayé, c'est pas possible. Et aussi parce qu'en fait, surtout dans mes spectacles, dans mon écriture, les danseurs ont beaucoup d'interactions entre eux, sans se parler, parce que ça reste de la danse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on communique énormément avec les visages en entier. Et simplement avoir les yeux, ça ne suffit pas du tout pour se repérer, savoir si l'autre est prêt pour un porté, pour une connexion, pour des sauts, ou pour tout ce genre de choses. En fait, ça c'est assez étonnant, parce qu'on ne s'en rendait pas compte avant le Covid. Et finalement, si, voilà, on communique avec la totalité du visage. Donc répéter avec des masques, c'était voilà, encore une fois pas possible de ce point de vue-là. Après, ce qui a vraiment changé, évidemment, c'est nos dates de tournée, parce que tout est en suspens. Et par contre, ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment je dirais, des nouvelles choses, beaucoup de créativité au niveau de la façon de partager le spectacle vivant, donc par l'image, par la vidéo, par les réseaux sociaux. Évidemment, ça n'enlève pas le cœur de notre métier qui est de danser et de jouer vraiment devant un vrai public qui est vivant, qui vibre avec nous dans un théâtre. Et pour le coup, je suis assez étonnée et émerveillée de tout ce qui se passe avec ce partage dans les réseaux sociaux du spectacle vivant. Mais au fond de moi, j'espère que, entre guillemets, la qualité va rester assez médiocre pour qu'à l'avenir, ça ne prenne pas le dessus sur le vrai spectacle vivant et que ça ne fasse que en fait, nourrir encore l'intention des spectateurs de revenir au théâtre et non pas de se satisfaire de qualité de médias hyper performantes, hyper confortables et qui ne se satisfassent pas de ça. Ce qui fait vivre et progresser l'humanité, c'est ce partage culturel et cette chaleur humaine et être en interaction vivante avec des artistes et ne plus profiter d'une forme d'art enfermée chez soi, dans son petit cocon. Ça reste un moment de partage avant tout.
Sans prétendre remplacer évidemment une représentation en vrai devant un vrai public, cette captation vidéo a tout de même un objectif.
Alors, c'est de rendre visible cette pièce, parce qu'on devait faire notre première aussi en novembre ici. Donc c'est particulier d'avoir une première qui est squeezée. C'est vraiment dur, quoi. Ça nous coupe l'herbe sous le pied, entre guillemets. C'est fort, une première. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'enjeux. C'est enfin quelque chose qui naît. Et là, le fait d'être avortée, c'est assez c'est difficile. Donc, je tenais à ce qu'elle existe, cette première. Et donc, la seule solution, c'était de faire une captation vidéo et de la partager. Et alors voilà, la question se posait entre un live, ce qu'on voit souvent aujourd'hui, un live Facebook, ou pas forcément des lives Facebook, mais du form streaming en direct, ou de la rediffusion. Et j'ai préféré opter sur de la rediffusion gratuite, qui est plus sur 3 jours, par contre pas une rediffusion indéfinie, mais 3 jours ciblés. Et qui permet de toucher un maximum de personnes sans avoir une contrainte horaire. Et parce qu'on sait aussi tous que les lives, il suffit que la connexion ne marche pas bien sur le moment et tout est foutu. Ça se joue à beaucoup de paramètres. Donc j'ai préféré faire une rediffusion différée sur 3 jours continus. Et voilà, pour avoir un petit moment d'exclusivité, pouvoir partager cette pièce sur 3 petits jours en espérant que... ça leur donne le goût de venir voir pour de vrai ce spectacle dans un théâtre sur les prochaines dates qui, j'espère, ne seront pas annulées non plus.
Affaire à suivre dans les prochains jours, même si la réouverture des théâtres est pour le moment annoncée le 15 décembre, si tout va bien. En tout cas, ce spectacle Reverse n'est pas vraiment un nouveau spectacle puisqu'il a été créé en 2018.
Par contre, ce spectacle, c'est un peu particulier parce que c'était une création que j'ai faite en 2018 au Japon. Et j'ai repris la pièce, j'ai légèrement modifié le spectacle sur pas mal de petits aspects, mais c'est quand même une reprise avec des danseurs français. Donc c'est quand même très différent, parce que tous les interprètes sont différents. Voilà, donc ça change énormément. Mais pour les danseurs qui sont là, qui ont repris tout le spectacle, pour eux, ça va être la première fois. Moi, j'ai déjà fait jouer cette pièce il y a 2 ans auparavant avec d'autres interprètes et avec de légères modifications. Alors c'est une pièce qui est particulièrement originale, parce que tout au long de la pièce, les danseurs ont la tête constamment en contact avec le sol. Et c'était un choix de ma part de relever un peu ce défi de renverser complètement les corps et imaginer un monde à l'envers, un monde absurde, très clairement, dans lequel les gens marchent sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe dans un monde comme ça? Comment est-ce qu'on interagit? Comment est-ce qu'on avance ensemble? Et c'est un peu ce que j'observe de manière avec un angle très très large. Mais c'est un peu une satire de ce qui se passe un peu aujourd'hui, de cette, ce monde qui marche un peu à l'envers. On observe plein de vitesses différentes, plein d'incohérences. Je dévoile rien, tout le monde le sait, ça on le dit, mais Mais c'était important pour moi de mettre l'accent sur ça. Et donc, l'angle que j'ai choisi pour mettre en relief cet aspect-là, c'était de renverser des corps. Et aussi parce que techniquement, ça m'intéressait de voir avec cette gestuelle hip-hop, parce que ce sont des danseurs 100% hip-hop, des b-boys, comment est-ce qu'avec cette contrainte qui est quand même très contraignante, comment est-ce qu'on arrive à générer de la créativité au niveau de la gestuelle, au niveau des qualités de mouvement. Et ça m'intéressait de relever ce défi-là, et je pense que le défi a été plus ou moins bien relevé. Enfin, en tout cas, moi, je suis satisfaite du rendu et de la prise de risque. Et je laisse au public aussi le choix de faire leur propre avis et de découvrir ce que ça rend.
La chorégraphe est satisfaite donc du rendu de son spectacle, mais au début, il n'a pas été facile de convaincre les 5 danseurs qu'ils pouvaient danser la tête collée au sol pendant les 25 minutes de spectacle.
Déjà, c'était très compliqué pour les danseurs de s'habituer à ça, parce que même si c'est des b-boys qui ont l'habitude de prendre des appuis sur la tête, rester 25 minutes la tête complètement à plat au sol, c'est vraiment contraignant. Pas seulement au niveau physique, mais aussi parce que tous leurs repères changent. Ils ne peuvent plus avoir des repères de verticalité ou de droite ou gauche. Ils sont obligés de s'y faire autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de réduire le format de la pièce, de faire un format de 25 minutes qui est très intense, par contre. C'est vraiment intensif. Mais une heure, c'était trop. Et puis finalement, c'est bien. Les petits formats courts aussi, c'est efficace. On rentre dedans et on n'a presque pas le temps de s'ennuyer. C'est une grande vague qui dure 25 minutes et qui s'arrête tranquillement au bout d'un moment.
Et donc l'interview a été réalisée juste avant la captation vidéo. Et j'ai voulu savoir un petit peu comment voyait en tout cas Jeanne Gallois cette captation vidéo qui allait se dérouler dans l'après-midi.
Alors l'idée, c'est quand même de faire une bonne captation. Donc c'est pour ça qu'on va filmer deux représentations. On va faire deux fois deux filages cet après-midi qui vont les deux être captés avec des angles différents d'ailleurs pour chaque... Bon, on en profite aussi pour faire des angles, varier les points de vue pour les caméramans. Mais comme je le disais, faut pas non plus que ce soit trop parfait. J'aime bien quand il y a aussi des petits... Ouais, de la fragilité, quand on voit des erreurs, entre guillemets, enfin, quand on voit du vivant. Trop parfait, ça devient presque inhumain. Et oui, ça peut être beau 5 minutes, mais en fait, c'est pas vraiment aussi représentatif de mon travail. Il y a beaucoup de fragilité à chaque fois dans ce que je mets sur scène, et c'est voulu. Quitte à ce que des fois, des fois vraiment, c'est brut et nu. Et c'est ça qui est beau, en fait. Parce qu'en tant qu'humain, on a tous des failles, personne n'est parfait. Du coup, voilà, je tiens à ce que ça ressort aussi dans la vidéo, ça. De ne pas volontairement couper un plan parce qu'il y a eu un gros couac à cet endroit-là. Non, le couac ici, il a existé, on l'assume, et puis ça fait partie de la pièce aussi, donc voilà.
Se prépare sur scène à ce moment-là Geoffroy Durochat, c'est l'un des 5 danseurs donc, qui participent au spectacle, et il explique lui aussi que ça n'a pas été facile en tout cas de se préparer à faire tout le spectacle, donc 25 minutes, on rappelle, la tête collée au sol.
Au début on se demande comment on va faire, et puis en fait c'est très progressif, du coup on trouve des repères, on trouve des manières de poser la tête aussi pour alléger un peu le poids, et puis il y a des temps aussi un peu, on peut trouver des temps de repos, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sur la tête, et bon après on est tous des danseurs de break avec cette spécificité là, donc on a une musculature du cou qui est déjà préparée à ça, mais non en fait on s'y habitue, on s'y fait, et on s'y sent bien même, là ça fait, on en parlait hier, que c'est on commence à avoir le spectacle dans le corps, on commence à être à l'aise, avoir des temps de récup et tout, et non ça se fait bien, mais c'est assez étonnant ouais, surtout que c'est encore récent pour nous, on a eu 2 semaines de création pour apprendre la créa, donc là c'est vrai que c'est encore récent, donc c'est vrai que c'est important de pouvoir se remettre dedans, de se remettre dans le corps, de se remettre le plateau, enfin ouais, surtout pour l'instant c'est important. Ouais. Là j'ai parlé que pour moi, parce qu'on est 5 sur le plateau, moi j'ai jamais fait de captation qui va être diffusée après en ligne, donc c'est une première ouais, mais c'est cool. Bah, je pense que ça change forcément parce que quand il y a des spectateurs, on sent une énergie, on sent une présence, mais je pense qu'en termes de vouloir bien faire ou de tout donner, c'est la même chose. Après, j'ai envie de dire, avec une caméra, on peut peut-être refaire, donc il y a un peu une chance de récupération si jamais on n'est pas convaincu par ce qu'on a shooté, mais non, je pense en termes d'énergie, en termes de ce qu'on va donner, ce sera la même chose.
En tout cas, le danseur est content, très content même, de reprendre la danse et donc de revenir sur scène après plusieurs semaines de confinement et sans les autres danseurs. Ça fait du bien, justement, c'est que du plaisir, on l'écoute.
C'est vrai que là, ce petit stress de monter sur scène, ça fait un... Bon, longtemps, ça fait un petit mois, quoi. Ça fait un... Moi, ma dernière date, c'était pour notre compagnie, c'était le 19 octobre. Donc ça fait un mois, c'est ça. Et on a hâte de le retrouver, ce petit stress. Quand Jeanne nous a annoncé qu'on avait un temps de travail tous ensemble et qu'on allait la jouer, on a tous dit oui dans les 24 heures. Donc non, c'est trop cool, ouais. J'ai hâte de revivre ça, et puis même de danser avec tout le monde. C'est trop chouette, c'est des choses qui nous nourrissent et dont on a besoin, en fait, au quotidien. Donc c'est cool d'avoir la chance de pouvoir le faire aujourd'hui, ouais.
Le spectacle Reverse sera donc disponible ce week-end sur Vimeo. La vidéo sera disponible, visible à partir de vendredi 20h30 jusqu'à dimanche soir minuit, pour être très précis. Le lien est disponible entre autres sur la page Facebook du Carré. On revient après une petite pause musicale assurée par Yael Naïm et Camille.
I walk until drops. I walk until you grow.
C'était Yael Naïm et Camille sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local. Et c'est désormais l'heure de notre chronique autour de l'économie. Comme son nom l'indique, un autre écho de l'écho assuré par Swazik. On parle aujourd'hui externalités positives. Bonjour Swazik. Alors aujourd'hui, on va parler des externalités positives de nos commerces.
Et bonjour Marie. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion économique primordiale pour les économistes, à savoir les externalités. C'est un drôle de mot parce qu'il est traduit de l'américain, parce que beaucoup d'économistes mainstream sont américains. Alors, la définition d'une externalité, c'est deux critères. Le premier, c'est qu'il s'agit d'une conséquence non voulue d'une activité de production par un agent économique, que ce soit une entreprise, un ménage ou un État. Le second critère, c'est que le coût de ces conséquences ne doit pas être incorporé, comme on dit, compris dans le prix de vente. Alors, c'est ainsi que l'on parle souvent des externalités négatives. Par exemple, les algues vertes sur lesquelles j'avais fait ma première chronique sont une externalité négative des producteurs de porc. En effet, les producteurs de porc n'ont pas comme objectif final de polluer les nappes phréatiques ni de développer les algues vertes sur les pêches bretonnes, évidemment. Les algues vertes sont donc un effet induit non désiré. Deuxième caractéristique, le coût du traitement de ces algues vertes n'est pas incorporé dans le prix. Marie, vous ne payez pas le prix de la dépollution quand vous achetez du jambon ou un filet mignon. Alors, les deux conditions étant réunies, on parle donc d'externalité. Et comme elles sont souvent nuisibles, on parle souvent des externalités négatives. Mais les externalités peuvent également être positives. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais pour des conséquences favorables à qui n'a rien demandé. Ainsi, par exemple, l'éclairage public éclairant votre jardin vous permet de bénéficier de cette luminosité gratuitement, sans que vous ayez à payer spécialement pour ce lampadaire.
Mais alors pourquoi ce détour théorique? Quel rapport avec nos commerçants?
Eh bien, ce détour théorique me semble important pour comprendre l'idée tout à fait pertinente évoquée par Esther Duflo la semaine dernière, Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. À la question qu'on lui posait de savoir quelles pourraient être les modalités d'action du gouvernement en faveur des commerçants, j'y arrive, obligés de fermer boutique depuis bientôt 4 semaines, elle répondait sans coup férir, des subventions massives et non des prêts. Ce qui, vous en conviendrait, est une nuance de poids.
Mais pourquoi l'État favoriserait-il les commerçants en leur octroyant des subventions sans remboursement alors qu'il ne fait que prêter aux entreprises?
Eh bien justement, parce que les commerçants du centre-ville, sans le savoir, ne font pas que produire des services. Ils génèrent également nos fameuses externalités positives. En effet, un centre-ville commerçant crée une dynamique dans l'espace public, un bien-être pour les individus, voire du lien social pour qui va dans les commerces, les bars ou les restaurants. Bref, l'effet agrégé de tous les commerces est bien supérieur à leur simple addition. Les centres-villes ou les centres-bourgs, voire les cœurs de ville, forment in fine, comme disent les économistes, un bien public commun à tous qu'il faut absolument préserver. C'est pour cela que la fermeture des commerces doit être ramenée à une durée minimum et leur soutien économique assuré au maximum. On a beaucoup parlé du problème des librairies, mais il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Certes, la culture est importante et les librairies distribuent effectivement des biens essentiels. On est tous d'accord là-dessus. Mais ne tombons pas dans la condescendance sociale en estimant que seuls les libraires sont essentiels à la vie sociale. D'abord parce que ce serait mépriser les autres commerces et commerçants, et également parce que c'est l'ensemble de tous les commerces qui créent la vie des centres-villes. Ce n'est donc pas seulement en tant qu'entreprise privée que les commerces doivent être soutenus par le gouvernement, mais c'est aussi en tant que producteurs d'un bien commun, en tant qu'ils sont nécessaires à la cohésion sociale et à la qualité de l'espace public. C'est donc également à partir de ce point de vue social et non seulement économique que le gouvernement doit envisager le plan de sauvetage des commerces.
Et quelles solutions faut-il alors envisager ?
Eh bien, l'objectif, c'est qu'il ne passe pas par la case faillite, parce qu'il est bien plus difficile de commencer une affaire que de la poursuivre. Mieux vaudrait alors s'orienter vers des subventions, des remises de loyers ou l'équation terrible du zéro chiffre d'affaires malheureux et au zéro prélèvement obligatoire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la réouverture annoncée pour samedi par Emmanuel Macron hier soir est la moindre des choses. Le premier confinement, Marie, avait déjà conduit à une diminution de 30% du chiffre d'affaires pour beaucoup de nos commerçants et Noël peut représenter jusqu'à 40% du chiffre d'affaires, pour un très grand nombre. Alors pour conclure, je rappelle encore une fois que la définition de la santé de l'OMS ne se limite pas à l'absence de maladie, mais cette définition prend également en considération le bien-être psychique et social de l'individu. Les commerces des centres-villes contribuent à ce bien-être social et psychique, ils contribuent donc à notre santé, le gouvernement ne doit pas l'oublier.
Merci Swazik. Et donc cette chronique est à réécouter comme toutes les autres sur notre site internet l'autreradio.fr. Et puis vous le savez, depuis le début de semaine, on se promène un peu dans les coulisses du FJT à Laval, de la résidence Pierre de Coubertin. Et donc on continue notre tour, Claire, aujourd'hui dans les cuisines, je crois.
Et oui, hier nous avions eu le service entretien qui nous décrivait les nouvelles journées de travail avec par exemple leur participation en cuisine. Et du coup aujourd'hui nous avons justement le service de restauration. Ce service a nettement diminué puisqu'il est ouvert seulement aux résidents et non plus aux adhérents extérieurs de l'association. Justement, combien y a-t-il de couverts aujourd'hui ?
Entre 15 et 20. Alors que hors confinement, un service classique, quand on a nos clients, nos usagers, on est entre 200, 300. Hors confinement, oui, vous avez petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Un petit déjeuner, il n'y a plus. On fait plus le système de plateau. Comme tous les restaurants, que ce soit tradi ou gastro, on a été stoppé, on avait obligation de fermer. Chose qu'on a faite, donc on n'a pas travaillé pendant à peu près 3 mois. Le deuxième confinement est beaucoup moins strict. Bon, on a l'impression maintenant, au jour d'aujourd'hui, après le discours qu'il y a eu hier, que ça touche vraiment surtout les restaurateurs. Là, c'est vrai qu'il y a la chance si les commerces vont rouvrir prochainement. Mais de nouveau, les restaurateurs sont encore touchés, quoi. Et ça jusqu'au mois de janvier minimum. Si c'est pour des plateaux repas, automatiquement, oui, on fait rentrer beaucoup moins de marchandises par rapport à une semaine type. Ça, c'est sûr à 100%. On a des stocks. De toute façon, en plus, on a été prévenu l'avant-veille pour la fermeture, pour le deuxième confinement. Donc, automatiquement, il restait des stocks. Donc, sur les 3 résidences qu'on est, on a regroupé nos stocks. On jongle avec ça et puis on fait des petites commandes à côté pour compléter. Normalement, une journée type, là, actuellement, on est 2. Normalement, si on est vraiment au complet, on est 7-8 au moins. Ouais, on est 4 fois moins au niveau de l'équipe. Il y a des collègues qu'on ne revoit pas, qu'on ne va peut-être pas revoir avant les réouvertures. Mais bon, c'est compliqué pour tous les restaurants.
À l'annonce du gouvernement, les restaurants pourront rouvrir à partir du 20 janvier, ce qui inquiète donc le service de la résidence Habitat Jeune. Cependant, nous verrons demain avec les résidents que ce confinement a quand même eu du bon.
Un petit peu de positif en tout cas dans cette semaine autour du confinement. Mais effectivement, c'était intéressant de voir du point de vue du restaurateur. Puisqu'ils sont plus que 2, c'est ça Claire ?
Exactement, le second cuisine là qu'on a eu et sa collègue.
Très bien. Et donc les résidents, ce sera demain, vous l'avez compris. On termine donc avec notre petite rubrique initiative, vous en avez désormais l'habitude. Et pourquoi pas ce week-end, d'autant plus que le périmètre des sorties en plein air a été allongé. Vous pouvez désormais partir à 20 km autour de chez vous pour 3 heures maximum. L'occasion en tout cas de participer à la course virtuelle organisée par l'association Graines d'Enfants. Le principe, vous pouvez courir 10 km ou marcher 5 km ou en soi à peu près la distance que vous voulez et vous envoyez votre résultat à Camille Leclerc, c'est l'instigateur de ce projet. Et l'idée c'est de mettre en lumière Graines d'Enfants, donc qui est une association qui en tout cas agit pour le don de gamètes. Et donc ça c'est ce week-end, n'hésitez pas. Ce week-end vous pouvez aussi déjà penser aux cadeaux de Noël avec une idée entre autres de cadeaux de Noël solidaire et local avec le Local Bag 53 proposé par l'association Interact Laval. À l'intérieur, pour 29€, vous n'avez que des produits 100% mayennais, avec entre autres une bière de la brasserie de Loudon ou du chocolat d'Au Petit Prince. Attention, par contre, vous n'avez que jusqu'à lundi pour précommander, sachant que la livraison de votre local bag, ce sera vers le 20 décembre. Et pour commander, donc, il faut aller sur le Facebook ou l'Instagram Interact Laval. Et puis, autre initiative à relayer, en ce moment, vous le savez, les cinémas sont fermés et pourtant, on peut quand même participer à des ciné-débats. Ce sera le cas ce soir à 20h30 avec le cinéma Le Palace à Château-Gontier autour du documentaire « Sans attache » sur les chemins de la liberté. Il est projeté donc en ligne à 20h30 ce soir sur le site La 25e Heure, donc c'est sellevirtuelle.25eheure.com. Il faut vous créer un compte avant et puis ensuite, quelques minutes avant l'heure dite, vous pouvez donc participer à ce film qui sera suivi d'un débat et le même documentaire qui sera également disponible en ligne dimanche à 16h30 et d'autres dates sont à venir, nous assure donc le cinéma Le Palace à Château-Gontier. Merci beaucoup en tout cas Claire pour cette émission.
Merci Marie, à demain.
Et puis on se retrouve demain exactement, très bon après-midi, puisque c'est la fin de notre émission L'AJT du local. À suivre à 19h, il y aura La Sagesse de Tug et à 20h, Rock My Soul. Et donc moi je vous dis à demain, toujours rendez-vous au même endroit, à la même heure, midi 15, à demain.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.